invité de Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire. Dialogue avec Nicolas Bouzou. Il est économiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès et président des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, directeur d'études au sein du MBA Law and Management de l'Université de Paris 2 Assas. Il est éditorialiste à l'Express, sur Europe 1 et LCI. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le très remarqué La Comédie Inhumaine, écrit avec Julia de Funès. C'est le dernier, publié en mars 2022 aux éditions de l'Observatoire. Pour un libéralisme populaire, il a été élevé au rang de chevalier national de l'Ordre du Mérite par décret du président de la République pendant la crise de la Covid-19. Cette interview est illustrée par des photos de Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, et Nicolas Bouzou en plein échange. Christelle Morancet.
Notre pays sort d'une séquence électorale qui nous laisse face à de nombreuses incertitudes. Nous affrontons une multitude de crises géopolitiques, économiques, sociales, sanitaires, environnementales. Le tableau n'est pas réjouissant. Et pourtant, nous publions un sondage réalisé auprès de jeunes de 15 à 25 ans qui révèle que notre jeunesse partage un vrai optimisme, un attachement fort à sa région, une confiance en l'avenir à rebours des stéréotypes de la génération Greta Thunberg que l'on imagine angoissée, déprimée, fataliste. Comme notre jeunesse, et malgré les difficultés que je ne nie évidemment pas, je suis résolument du côté de l'optimisme et je vois partout sur le terrain des motifs d'espoir et de confiance. Dites-moi que nous avons raison d'y croire, Nicolas Bouzou.
Je vous le confirme, je n'adhère pas du tout au discours décliniste sur la jeunesse qui est à la croisée de la démagogie et du défaitisme. Certes, la pandémie et la guerre rendent la période que nous traversons difficile, avec notamment des difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières agricoles, mais nos sociétés sont solidaires, notamment envers les plus jeunes. Regardez le succès de l'alternance, les investissements dans la décarbonation, les potentialités de la troisième révolution industrielle ou tout simplement l'urbanisme de nos villes. La transformation urbaine du pays grâce aux mobilités douces est engagée. Quand je me projette à 2050, je vois un monde largement décarboné où nous guérirons le cancer et où nous traiterons les maladies neurodégénératives. Quelle chance d'être jeune aujourd'hui.
Nous avons choisi de faire de 2022 l'année de la jeunesse. J'échange beaucoup avec des jeunes issus de tous horizons, de toutes conditions. Il y a une chose qui revient en permanence, c'est leur rapport au travail qui est différent de celui de notre génération et qui est marqué par une quête positive de sens, une volonté très forte de mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Le travail est une valeur discutée, bousculée dans notre société. Et pourtant, nous savons qu'il faudra travailler plus et surtout plus longtemps si l'on veut financer notre modèle social. Comment parvient-on à résoudre une telle contradiction et comment réhabiliter l'idée de travail?
Déjà, il est faux de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. En fait, ils veulent du sens, de l'autonomie et ils souhaitent mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Comment les en blâmer? Ces attentes sont légitimes. Ma réponse à votre interrogation est double. Déjà, il faut sans cesse revaloriser la place du travail dans notre société. On ne combattra la stagflation dans laquelle la pandémie et la guerre nous ont mis qu'en travaillant davantage, mieux et en étant plus nombreux à travailler. Ensuite, les entreprises doivent améliorer leur management et rendre leurs organisations plus attractives. Pour les jeunes, trop de réunions, trop de process, trop de bureaucratie inutile. Il faut libérer l'entreprise pour laisser s'exprimer les talents des jeunes.
Pour poursuivre sur la jeunesse, j'observe avec une vraie tristesse la désaffection massive de nos jeunes pour la vie démocratique. Pourtant, je croise partout des jeunes passionnés par les enjeux de société et pas seulement par les questions écologiques, mais aussi par l'économie ou les sujets régaliens. Qu'est-ce qui les bloque au moment d'aller voter? Est-ce un problème d'offres politiques, de systèmes électoraux, d'éducation civique?
Je suis sur la ligne du philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Selon lui, la crise démocratique qui existe, comme en témoignent les chiffres de l'abstention, n'est pas une crise de la représentativité, mais une crise de l'efficacité. En fait, nos concitoyens se détournent de l'action politique car ils n'y croient tout simplement plus, en tout cas au niveau national. À ce titre, le mandat de la région me passionne, car dans certains domaines concrets, comme celui de la réindustrialisation ou de l'énergie, c'est au niveau régional que l'efficacité de l'action publique est la plus forte. Attention au piège de la démocratie participative. Si elle se traduit par moins d'efficacité, elle renforcera la crise démocratique.
Le gouvernement semble bien en peine de sortir du quoi qu'il en coûte. Les chèques alimentaires succèdent aux chèques énergie et nos comptes publics virent au rouge écarlate pendant que l'inflation continue de grimper. Plus un problème ne semble devoir se régler autrement qu'à coup de milliards d'euros d'argent public. Et le pire, c'est que pour les oppositions, quelle qu'elle soit, ce n'est jamais assez. Nous vivons dans l'illusion dangereuse que l'État peut tout, ce qui d'ailleurs pourrait à terme nourrir des frustrations et des colères sociales. Comment sort-on de cette spirale infernale ?
Déjà, je partage ce constat avec vous. Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, montre bien qu'il s'agit d'un cercle vicieux politique. Quand l'État indemnise une partie de la population contre l'inflation, toutes les autres demandes d'aide de la part des autres catégories sont légitimes. Vous avez donc parfaitement raison, cette politique d'achat de la paix sociale nourrit les frustrations et les colères sociales. Économiquement, elle pose en outre plusieurs problèmes. D'une part, elle est inflationniste. En effet, alimenter la demande, quand c'est l'offre qui est contrainte, c'est être certain de faire augmenter les prix. D'autre part, elle alimente la dette publique dont la charge s'accroît déjà avec la hausse des taux d'intérêt de long terme. En fait, la politique économique correcte en période de stagnation est d'augmenter la production nationale par le travail et l'investissement et d'aider socialement la partie de la population qui est en grande difficulté. Mais il ne faut surtout pas arroser l'économie d'argent public car on aggrave le mal contre lequel on veut lutter.
Selon vous, quelles seraient les 4 ou 5 réformes absolument indispensables pour la France ?
Premièrement, nous devons mettre en place une réforme de la gouvernance, de l'innovation. Nos dispositifs nationaux de soutien à l'innovation sont trop éclatés. Bercy, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du numérique, ministère de la santé, etc. Il y a de nombreux doublons et nous ne prêtons pas assez attention aux entreprises susceptibles de devenir des tétracornes, plus de 10 milliards d'euros de capitalisation. Pourtant, ce sont elles qui manquent à la France et à l'Europe. Deuxièmement, il faut rendre nos pouvoirs publics plus efficaces. Cela va de pair dans mon esprit avec un nouvel acte de décentralisation qui donne beaucoup plus de responsabilités et de capacités d'expérimentation aux régions. Pourquoi ne pas leur confier les campus universitaires, par exemple, à l'image des lycées ? Troisièmement, nous devons révolutionner le recrutement des enseignants pour rendre cette profession hyper attractive. Enfin, je n'oublie pas les questions de sécurité qui font partie de l'attractivité économique d'un pays. Si l'on fait déjà tout ça, la France peut devenir un paradis. Au niveau européen, il faut renforcer les coopérations par petits groupes ou par noyaux.
Vous développez des réflexions très utiles sur l'école française qui ne joue plus son rôle d'ascenseur social et qui, année après année, recule dans tous les classements de performance internationaux. Comment remettons l'école au cœur de notre projet de société ? Comment lui redonne-t-on la première place dans nos priorités ?
J'en ai fait depuis longtemps alerter sur la baisse du niveau en savoirs fondamentaux et en particulier sur le décrochage français en mathématiques. C'est un sujet majeur. Comment rebâtir une économie à la pointe de l'innovation sans recherche fondamentale et sans ingénieurs ? La crise éducative menace la prospérité de notre pays. Le cœur de la crise provient du manque d'attractivité de la profession des enseignants. À très court terme, je propose un 10-20, augmentation du temps de travail en cours ou en petits groupes de 10%, quitte à diminuer les tâches administratives, augmentation des salaires de 20%. À plus long terme, il faut réintroduire une plus grande liberté de recrutement et sortir du statut et des grilles salariales uniques. Une école doit avoir le droit d'investir financièrement sur ses enseignants.
Depuis la crise du Covid, il est question de réindustrialiser la France, mais concrètement, quand on regarde de près le mur d'obstacles bureaucratiques, réglementaires, fiscales, qui se dresse devant les investisseurs, on peut craindre qu'il s'agisse d'un vœu pieux. Comment recrée-t-on une industrie puissante en France ?
La réponse est en partie dans votre question, en débureaucratisant. Le président de la République doit nommer un comité à la simplification qui lui rapporte régulièrement. Tony Blair a fait quelque chose de proche au Royaume-Uni dans les années 1990 et cela avait bien marché. Sur le plan fiscal, je soutiens la politique de l'actuel gouvernement qui consiste à diminuer les impôts de production et pour revenir au début de notre propos, on ne réindustrialisera pas sans être obsédé par l'innovation.
Comment expliquez-vous que l'Europe, qui est le premier marché économique mondial, qui propose des niveaux de qualification parmi les meilleurs au monde, ne parvienne pas à faire émerger des géants comme Amazon, Tesla ou Apple et comment y remédier ?
Cette question m'obsède. La perte de substances technologiques de l'Europe génère une perte de puissance géopolitique. Nous manquons de financement privé, non pas au moment de l'amorçage, mais quand les entreprises ont passé l'étape de la recherche et développement. En gros, il nous manque un Nasdaq européen. Pour la région, je vous conseille d'identifier les entreprises de votre territoire susceptibles d'être passées à l'échelle supérieure et de les aider, elles et pas seulement les plus petites. En amont, il faut créer un marché unique des nouvelles technologies.
L'écologie est un principe indispensable de l'action publique. Mais j'observe que l'écologie décroissante qui prône la fin du progrès humain et technologique occupe le devant de la scène médiatique malgré ses excès, ses outrances et parfois même son ridicule. Il est devenu difficile de défendre une écologie de croissance tournée vers la création de richesses et d'emplois durables. Nous avons même dû affronter, ici dans les Pays de la Loire, des oppositions parfois violentes à des projets industriels pourtant consacrés aux énergies renouvelables. Comment faire comprendre qu'écologie et économie peuvent rimer, qu'ils peuvent être à la fois source de développement et de bien-être.
La décroissance est l'ennemi de l'écologie. Les décroissantistes ne s'intéressent aucunement à l'écologie, mais veulent instruire le procès des démocraties libérales et de l'économie de marché. L'électrification, la décarbonation, le développement de capacités de production d'énergie décarbonée, la capture du CO2 sont complémentaires de la nécessaire sobriété. Elles exigent des ressources et des capacités d'innovation colossales.
Pour conclure, quels sont les mots ou les images qui vous viennent lorsqu'on évoque les Pays de la Loire ?
Le lien harmonieux entre le passé et l'avenir, entre les villes et la campagne, entre le repos et la vie, c'est une partie de la France apaisée et dynamique.